Très vil PM. Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Christian Page, bonjour.
Salut Patrick Lagacé.
Enchanté.
Pareil pour moi.
La voix m'est extrêmement familière. Oui. On ne s'était jamais rencontré.
Effectivement.
Et là, ce remplacement de Bernard Drainville me permet de te rencontrer. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Ça me fascine toujours. Et c'est le cas de Mike Hughes.
Et c'est quand même surprenant parce que cette histoire de la Terre plate, elle fait partie des théories du complot.
Oui,
et c'est une théorie du complot qui est de plus en plus populaire. Et je te rejoins. On a peine à croire qu'un truc comme ça pouvait se passer au 21e siècle.
Oui,
en se disant, écoutez, là, franchement, la Terre est plate. On croyait que c'était quelque chose, un vieux reliquat du Moyen-Âge, mais ça semble pas le cas. Et de plus en plus de gens accuse, évidemment, on diabolise toutes les organisations, toutes les agences spatiales.
Oui.
Elles sont toutes impliquées dans la théorie du complot et on veut nous cacher que la Terre est plate. Ça, c'est la grande réalité. Et ce Mike Hughes, évidemment, il n'en est pas à sa première sortie dans les médias. On parle de lui depuis l'automne dernier.
Oui.
Il en était à sa troisième ou quatrième tentative parce que son souhait, il a construit dans son garage pendant 2 ans une espèce de fusée. De façon tout à fait artisanale, qui fonctionne à vapeur. Hein?
Le Elon Musk des pauvres.
OK, quelle belle référence. Et c'est une fusée qui fonctionne à vapeur. Il faut comprendre que c'est moins dangereux monter là-dessus que sur une fusée à l'hydrogène ou au propergol.
Il me semble que ça va moins loin aussi.
Oui, effectivement, parce qu'il a atteint une altitude record de 570 mètres. Je te rappelle que la tour du CN est plus haute.
Mais quand même,
oui,
500, un demi-kilomètre.
Oui, un demi-kilomètre avec une vitesse de 560 km par heure. C'est quand même pas très vite, mais quand même, il a atteint cette altitude.
Et il était dans la fusée.
Oui, c'est là l'exploit. Il était assis dans la fusée. Et c'est assez amusant parce que, bon, ça s'est fait samedi dernier.
Il n'est pas mort?
Non, il s'est blessé légèrement. C'est quand même un homme de 61 ans. Il faut faire attention, certains médias l'ont décrit comme un scientifique amateur.
Je vois pas. Okay.
Bon, là, on voit qu'on a une espèce d'élastique autour du mot. Mais en fait, c'est un ancien chauffeur de limousine qui a adhéré depuis quelques années à cette théorie de la Terre plate. Et c'est assez amusant parce que lorsqu'il s'est lancé, il y a eu plusieurs problèmes. D'ailleurs, pour se lancer, il devait survoler le désert de Mojave en Californie, qui est déjà un parc national.
Mm-hmm.
Il lui fallait l'autorisation, premièrement, des autorités, ce qu'il n'a pas obtenu. Alors, finalement, il est parti d'un petit village situé tout près du désert de Mojave. Il s'est lancé. Et c'est amusant parce que l'idée du voyage n'était plus de prouver que la Terre était plate. En fait, cet objectif était passé en deuxième. Son premier objectif, c'était de prouver qu'il avait le courage de monter dans sa fusée. Parce que depuis l'automne dernier, comme il avait un peu comme remis au calendrier grec cette histoire-là, les gens commençaient à lui dire, mais est-ce que ce n'est pas finalement une espèce de truc publicitaire pour aller chercher des
un stand
publicitaire? Est-ce que finalement, il aura le courage de monter dans sa fusée? Il faut dire que la dernière fois qu'il était monté à bord, il avait appuyé sur le démarreur et rien s'était produit. Donc, problème mécanique.
Mais ces gens-là, Christian, qui croient que la Terre est plate, et en fait, c'est un des effets pervers de l'Internet.
Oui.
Parce que ces gens-là, qui avant là, étaient dans le sous-sol de leur mère, ridiculisés, aujourd'hui peuvent se fédérer puis en groupe, ils se sentent un peu plus confiants. Est-ce qu'ils croient vraiment à ça?
Oui, absolument. J'en ai rencontré quelques-uns et c'est vrai que dans les théories du complot, j'ai bien aimé ton intervenant tantôt, le médecin, le psychologue qui parlait justement des antidépresseurs. Et lorsqu'il dit « c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que tout le monde a droit au chapitre ». Et je me rappelle Umberto Eco, peu de temps avant son décès, on lui avait posé la question qu'est-ce qu'il pensait,
le philosophe
italien qui a écrit notamment « Au nom de la rose
»,
que les gens vont associer par le film. Et on lui avait demandé ce qu'il pensait des médias sociaux. Il avait répondu, vous savez, les médias sociaux ont donné un peu la parole à tout le monde. Autrefois, les gens racontaient des trucs dans un bar, puis on les faisait taire avant que ça occasionne des problèmes. Aujourd'hui, ces gens ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion un peu de la stupidité. Et c'est un peu vrai. Et tu le mentionnes bien dans les théories du complot. J'ai écrit un livre là-dessus sur les théories du complot. Et ce que l'on se rend compte, c'est qu'on est en présence d'un mécanisme qui rejoint un peu les mouvements sectaires dans la philosophie.
Mmh.
C'est-à-dire que ces gens-là se regroupent derrière leurs écrans. Ils échangent entre eux. Ils ont l'impression qu'ils forment une petite communauté, un peu une enclave à l'extérieur de la communauté. Et eux ont l'impression, exactement le même mécanisme que les sectes, ils ont l'impression d'être des privilégiés. eux savent quelque chose que nous, nous ne savons pas, un peu comme les gens qui côtoient le gourou, qui lui sait quelque chose mais que les autres ne savent
dans
pas.
Dans le cas qui nous occupe, ces gens-là sont certains que la Terre est plate. Écoute, on est bien moins dans l'astronomie que dans la psychologie.
Absolument. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on pourrait tous se dire qu'en fait, déjà, les Grecs, il y a 2000 ans, savaient que la Terre était ronde. Hein? Oui, c'est, que, oui. C'est une notion qu'on a perdue un peu là, dans les Dark Ages, là, au mm-hmm. début du Moyen Âge. Mais ces gens-là diabolisent toutes les autorités. Hein? La science est diabolisée parce qu'elle nous dit que la Terre est ronde. Et là, bien sûr, toutes les grandes agences spatiales sont diabolisées, comme si toutes ces agences-là, et en particulier la NASA, avaient l'hégémonie de l'espace, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, finalement, c'est toujours de diaboliser les autres.
Et en parlant de l'espace, on prend une petite pause parce qu'au retour, tu vas continuer de nous parler de mythes et complots et de la station chinoise Tiangong 1.
Oui.
Les sujets de l'heure. Voici Patrick Lagacé au réseau Cogeco.
De retour à la chronique Mythes et complots avec Christian Page. Christian, les Chinois ne font pas que fournir tous les cossins facilement cassables de l'humanité. Ils sont à veille de faire tomber une station spatiale.
La leur, effectivement. Donc, on sait que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et là, c'est peut-être ce qui va se passer. En fait, c'est la station spatiale Tiangong 1 qui va retomber sur Terre au cours du week-end. Okay. C'est assez amusant parce qu'on nous dit qu'elle va retomber sur Terre, mais on ne sait pas trop où elle va tomber. Donc, on a une zone entre le 40e parallèle nord, 40e parallèle sud, ce qui comprend en fait à peu près toute l'Amérique centrale, une grande partie de l'Afrique, l'Inde, l'Asie. Donc, elle va rentrer sur Terre. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'elle est déjà à l'abandon depuis pratiquement 2 ans. Mmh. Elle rentre à chaque fois qu'elle fait une orbite autour de la Terre. Mais la Terre est-elle ronde?
Ah, ben là...
On reste dans
cette... On va demander à Mike Hughes.
Voilà. Donc, elle, à chaque fois qu'elle décrit une orbite autour de la Terre, elle se rapproche. Donc, elle va entrer dans l'atmosphère. Les scientifiques croient que 70 % de la station va se détruire au moment d'entrer
dans l'atmosphère.
Mais un 30 % de débris pourrait retomber sur Terre. Évidemment, comme la Terre est majoritairement constituée d'eau, elle devrait tomber dans l'océan. Ouais. Mais elle pourrait tomber, elle pourrait tomber notamment sur l'île de Corse, elle pourrait tomber dans le sud de la France et un peu partout. Et ce qui est assez inquiétant dans cette histoire-là, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'elle contient, cette station orbitale. Les Chinois ont été avares de commentaires. Et je te rappelle, à la fin des années 70, je crois que c'était en 78, on avait eu ce Cosmos 954, une station russe qui était rentrée, qui était tombée dans les territoires du Nord-Ouest, près du Grand Lac des Esclaves, et il y avait eu une contamination parce qu'il y avait une pile nucléaire à l'intérieur, et il y avait eu une contamination. On ne sait pas trop comment fonctionne la station chinoise. On ne sait pas lorsqu'elle tombera sur Terre s'il y aura des contaminations. On ne sait pas non plus quels seront les dommages. Et c'est assez amusant parce que très peu de médias en ont parlé de cette histoire de la station chinoise qui rentre sur Terre. Alors, bon, ben voilà,
maintenant. Mais tous les cossins en plastique qu'on achète aux Chinois, je suis certain, font pas mal plus de dommages qu'une petite patente comme
ça. Et tu sais qu'il y a il y a 500 millions d'objets qui gravitent autour de la Terre qui sont
absolument... Il paraît que ça s'en vient problématique.
Voilà, donc on a de plus en plus de difficultés à trouver des fenêtres de lancement pour lancer des trucs.
Écoute, selon ce que j'ai déjà lu, c'est plus... Il y a plus de bouchons en orbite qu'autour de l'échangeur Turcot. OK, bon, cerveau gelé pour seulement 10 000 $, qu'en est-il?
Ben oui, voilà. Quelle belle perspective. On a tous, en tout cas moi, j'ai espoir de pouvoir être éternel. Beaucoup de personnes partagent ce désir-là. Mais visiblement, les coûts astronomiques associés à la préservation des camps, on le sait depuis les années 60, on parle de la cryogénie, préserver un camp, etc. Là, voilà qu'une nouvelle compagnie se lance dans cet enjeu-là et elle va pouvoir geler ton cerveau pour 10 000 $. Donc, c'est quand même un coût moindre. Et elle prétend qu'une fois qu'on aura gelé ton cerveau, on pourra le transposer, le transplanter dans le corps d'un donneur. Mmh. On ne sait pas trop comment ils vont faire cette sélection. On suppose que quelqu'un qui souffrira à ce moment-là d'une mort cérébrale, mais dont le corps sera encore en état de recevoir l'organe, on pourra transférer ta matière grise. Il y a quand même deux problèmes à ça.
C'est quoi?
Ils sont majeurs. Le premier problème, c'est que la technologie du transfert du cerveau, de l'information, parce qu'on ne sait pas trop s'ils veulent transférer, réellement transplanter le cerveau, donc transplanter l'organe ou transférer l'information qui est dans le cerveau vers un nouvel organe. Alors, cette technologie-là, qu'elle soit de manière chirurgicale ou en termes neurologiques, elle n'existe pas. On ne sait pas comment non plus transférer de l'information, donc cette technologie-là n'existe pas. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut être vivant pour le faire. Donc, on ne peut pas geler ton cerveau à ta mort. Il faudrait donc t'euthanasier. Donc, volontairement, tu signes un papier comme de quoi tu acceptes de mourir. Et à ce moment-là, on pourra geler ton cerveau.
Donc, on va se dépêcher à le geler pour peut-être pouvoir le transplanter.
Éventuellement le transplanter,
un jour.
Voilà. Mais pour l'instant, c'est vraiment l'espoir de la dernière chance. Parce que pour l'instant, les technologies ne sont pas là, ne sont pas au rendez-vous pour permettre une telle opération.
Procès du Bigfoot en Californie. Bigfoot, le Sasquatch, ouais, le Yeti,
voilà,
pas au Tibet.
Le Sasquatch. Alors là, on avait cette dame, Claudia Hockley, ouais, qui l'an dernier, en fait en 2017, au début de 2017, se trouvait dans un parc tout près de Los Angeles, au Arrow Lakes Park, et qui se trouve en fait à l'est de Los Angeles, quand même une région assez peuplée. Là. Uh-huh. Et c'est un lac qui est très convoité par les amateurs de sport nautique. Et voilà qu'elle se trouvait là avec ses deux filles, et elle dit avoir croiser trois Sasquatch ou trois Bigfoot. Plus proche et les deux autres un peu plus éloignés. Et là, elle s'est confiée au gardien du parc qui, lui, travaille là depuis 25 ans. Il lui a dit, madame, vous avez sûrement vu un ours. Elle a rejeté cette explication. On se demande bien pourquoi. Et là, finalement, elle a décidé de poursuivre. Elle a déposé, elle a fait une plainte devant le comté de Sacramento pour poursuivre l'État de la Californie à cause de leur refus d'accepter ou de reconnaître l'existence du Sasquatch. Elle dit que ça met la vie des gens en danger. Et là, elle, sur la foi du procureur de l'État et ensuite sur la foi de son propre avocat, elle a accepté de retirer sa plainte.
Sauvegarder ce qui restait de dignité?
Non, parce qu'elle dit qu'elle ne fait pas vraiment marche arrière. Elle va recomposer, parce que la façon dont la plainte est présentée va un peu à l'encontre de la jurisprudence de l'État de la Californie. Donc, elle compte bien pouvoir réintroduire à nouveau une plainte contre l'État de la Californie. Mais je te rappelle que l'an dernier, quelqu'un avait fait ça aussi au Canada avec la Colombie-Britannique. Il a été débouté devant les tribunaux. On se demande bien pourquoi.
On suggère à tous ces gens-là de juste relire Tintin au Tibet. Il y en a un Yeti là-dedans.
Oui, absolument.
Christian, ça a été un plaisir. Merci.
Ça fait plaisir aussi.
C'était un plaisir pour moi aussi, chers auditeurs, de remplacer Bernard Drainville ces deux journées-là. J'ai fait avec vous mes débuts en radio. J'ai trouvé que des fois, c'était un petit peu laborieux. C'est toute une mécanique. Mon respect pour les artisans de la radio s'en trouve renouvelé. Donc, j'en profite pour faire quelques remerciements. D'abord, Larry Dufresne, Alexandre Marcoux, Maryse Duchesneau, la formidable équipe de Bernard Drainville que j'ai pu relever ici pendant deux jours. Bernard va revenir dès après Pâques. Il s'est pris un petit congé sous le soleil, je pense, quelque chose comme ça. Je pense que oui, il me semble. Donc, c'était bien mérité. Bernard travaille tellement fort. Il va être là mardi. Et bref, ça a été un très grand plaisir. Écoutez, vous dire que... quoi d'autre, donc? Montréal. Oh oui, c'est ça. Montréal maintenant s'en vient. Pendant mes deux jours ici, j'ai dû suspendre ma collaboration avec Paul Oud, hein, parce que je pouvais pas tout faire en même temps quand même. Et une salutation à Paul qui s'en vient avec son équipe. C'est un peu avec Paul Oud que j'ai appris à faire de la radio malgré tout. Donc je le remercie. Si j'avais pas fait ces années de chronique avec lui, j'aurais pas pu faire ces deux jours ici. Merci à tous et joyeuse Pâques. N'abusez pas trop des chocolats. Faut les reperdre après ça, après Pâques.